Radio Royan, reportage.
Nous allons maintenant écouter un reportage enregistré le 1er avril 2023 autour d'une école qui va bientôt ouvrir à La Chapelle en Vercors. C'est un reportage par Cyprien Capdeville.
Depuis quelques mois, un groupe d'habitants du territoire Royan-Vercors-Diois se réunit régulièrement pour co-créer horizontalement un possible pour leurs enfants. Ce projet éducatif hors contrat est porté par des êtres humains de tout horizon. Nous les avons rencontrés. Écoutons Nicolas, fraîchement arrivé sur le secteur et futur parent de la structure.
Oui, je m'appelle Nicolas de Boisemont. Avec ma compagne et nos trois enfants, nous nous sommes installés dans le Vercors il y a quelques mois. Oui, on a des métiers qui nous permettent de travailler en télétravail. Moi, je suis dans le marketing digital et ma compagne développe des applications. Oui, la crise Covid a été dure à passer et c'est là qu'on s'est dit qu'on voulait être dans un nouveau cadre de vie plus agréable. Oui, l'école des Mimosas, ça nous paraît être un projet intéressant. Quand nous sommes arrivés dans le Vercors, donc évidemment, on a fait le choix de l'école publique. D'abord parce que nous sommes des gens de gauche et aussi parce qu'on n'avait pas trop le choix. L'offre n'était pas exceptionnelle dans le domaine. Ouais, l'intégration a été dure, ça s'est pas très très bien passé. Bon, je vous avouerai que nous habitions dans les beaux quartiers de Marseille, dans des écoles... Qui avait un certain niveau. Alors ça a été un petit peu compliqué de s'adapter à un nouveau cadre et puis aussi à une nouvelle population, je dirais.
Michael, natif de Bâle, a lui aussi une idée précise du projet du point de vue d'un parent co-acteur de l'éducation des enfants.
En tant que parents, nous avons choisi de mettre nos enfants à l'école des Mimosas. Nous voulons que nos enfants aient toutes leurs chances de leur côté pour leur vie future. Et il est important pour nous de les placer dans une pédagogie qui, à cet effet, les comprend dans leur globalité. Nous voulons qu'ils aient la chance de développer des qualités et compétences qui seraient peut-être, en d'autres lieux, restées en germe.
On n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas le même niveau social, pas le même niveau d'études chez les parents. Ça se ressent, évidemment, chez les enfants. Oui, alors sur Marseille, les enfants étaient dans le privé. Oui, c'est que nous avions dû faire face à un problème qui est celui du contournement de la carte scolaire. C'est-à-dire que nous étions dans des quartiers, on va dire, plutôt favorisés. Et les gens du centre-ville essayaient de contourner la carte et d'envoyer leurs enfants dans nos écoles de quartier. C'est-à-dire que dans leurs écoles à eux, ils avaient quelques problèmes, on va dire, de mixité sociale. Et donc, le corollaire, c'est que nous aussi, on s'est retrouvés à avoir des problèmes de mixité sociale. Et voilà, il a fallu qu'on passe par le privé. L'Institut de la Sainte Famille, qui est une très bonne école. Alors nous, on n'est pas du tout catholiques pratiquants, hein, même si on est, disons, de culture chrétienne. Mais c'était pas vraiment ce que nous recherchions. Hein. Nous, ce qu'on voulait principalement, c'était un cadre, un certain niveau, une certaine quiétude. Oui, on peut avoir des convictions de gauche, mais à un moment donné, il y a un principe de réalité.
Nos enfants ont fait l'honneur de nous choisir. Nous, en retour, nous devons faire tout donner pour les préparer à leur vie future. Il est important pour nous que l'enseignement soit individualisé, car tous les enfants sont différents. Ils peuvent être mélancoliques, colériques, flegmatiques ou sanguins. Et c'est très important, nous serions de mauvais parents si on ne tenait pas compte de cette spécificité de l'individu. Et pour ça, il faut une pédagogie adaptée. Moi, en tant que parent, si mon enfant il est sanguin, je sais très bien qu'il n'a pas les mêmes besoins qu'un colérique. Et ça, c'est très important, donc d'avoir cette individualisation. Une des raisons importantes aussi pour le choix de cette école, c'est que nous voulons une école non confessionnelle, avec toutes ces écoles qui mettent des prières obligatoires le matin. Nous préférons les paroles de l'école qui éclairent l'âme de l'enfant. Et aussi, cette école, elle respecte le rythme de l'enfant de 0 à 7 ans, puis de 7 à 14, puis de 14 à 21. Et c'est fondamental d'apporter la bonne impulsion à nos enfants au bon moment Car si par exemple vous faites des activités intellectuelles avant l'âge de 7 ans, vous rendez votre enfant matérialiste, et ça c'est extrêmement grave.
Donc dans ce cadre, oui, l'école des Mimosas, ben, c'est un projet qui nous semble intéressant. On a pu rencontrer quelques parents qui avaient l'air intéressés eux aussi. On s'est fait tout de suite des amis. On a retrouvé des gens avec qui, disons qu'on avait certains liens culturels. On sait que ça va assurer à nos enfants une certaine qualité. Pas tant dans le cadre des enseignements et dans le cadre pédagogique que dans le public qui est accueilli. Donc une école privée, ça permet un certain filtre. Un filtre à l'entrée qui est celui du coût. Et voilà, nous on cherche à ce que nos enfants ne soient pas, soient dans une réelle mixité. Pour avoir une réelle mixité, il faut avoir, disons, un certain équilibre. Des gens qui se ressemblent, sinon c'est pas une mixité, c'est un bordel, excusez-moi le mot. Oui, on a vu que c'était un enseignement un peu particulier. Ils ont leur mot à eux, leur cadre pédagogique à eux, mais... Après tout, c'est pas vraiment un problème. On sait que les enfants seront bien suivis et en sécurité. Et puis, avec des petits camarades avec qui ils vont bien s'entendre. Et puis, de notre côté, on va s'impliquer un petit peu et voir les parents qui sont autour. Pour l'instant, de ce qu'on en a de la première approche, ça paraît vraiment être un projet intéressant. Alors, oui, le coût est un peu élevé, surtout quand on a 3 enfants. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un gage de qualité, et puis on se rassure d'être dans un milieu culturel qui se rapproche de celui auquel on tient pour nos enfants.
C'est pour ça qu'en tant que parent, il est important de choisir une école qui respecte les cycles d'évolution de l'enfant, qui met des activités manuelles, pour être proche de la nature et notamment du crochet pour avoir de bonnes dents. Nous voulons aussi une école qui ne note pas notre enfant, ce n'est pas une compétition. À la limite, l'évolution de l'enfant par rapport au bac n'a aucune importance car ce qui compte, c'est l'élévation de l'enfant. Et nous avons besoin aussi, nous avons confiance dans un programme scientifique extrêmement développé, notamment où on apprend la réalité de l'anatomie humaine. Car si vous ne comprenez pas que votre cerveau est un organe de digestion, vous ne comprenez rien en fait. Et par conséquent, vous êtes incapable de choisir une école en votre âme et conscience. Donc si je dois conclure, je vous dirais que moi, en tant que parent éclairé, éveillé et ayant fait mes propres recherches, j'ai pu découvrir énormément de choses, et notamment que la Terre allait disparaître dans 25 000 ans, donc l'écologie, c'est quelque chose de maintenant, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 1000 ans. Et il est donc important pour mon enfant qu'il soit évolué et éveillé le plus tôt possible à ces questions.
Arianna Infelhood, en disponibilité de l'éducation nationale, proposera ses compétences pédagogiques.
Alors moi, je suis facilitatrice en cosmologie des mondes, ce que l'académie et le rectorat appelleraient professeur d'histoire-géographie. J'ai un parcours relativement classique, hein. J'ai enseigné longtemps en collège, puis ensuite en lycée. Et en fait, très vite, la pédagogie mise en œuvre m'a pas convenu. Déjà, j'étais quand même un peu déçue des affectations d'un point de vue géographique, hein, parce que c'était pas exactement le secteur que j'avais demandé. Et tout ça a quand même participé à une sensation un peu de dessèchement, quoi, pédagogique. Et donc, j'ai eu envie d'essayer autre chose, et c'est là que j'ai eu la chance de découvrir la pratique, une pratique distincte de la pédagogie, qui m'a amenée, en fait, à redéfinir un peu le sens de ma mission auprès des jeunes. Et je dirais, aujourd'hui, s'il faut résumer un peu l'orientation de ma pratique, que il s'agit pour moi d'accompagner les jeunes gens dans un rapport au monde le plus pluriel possible, et je dirais plus exactement que mon mot d'ordre, en fait, de façon plus large, c'est le sensible. Le sensible et l'individu. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que ce soit très grave qu'en classe, les jeunes comprennent tout de ce que je leur raconte. On fonctionne plutôt par imprégnation successive. Et de manière générale, je ne fais pas seulement appel à l'intellect chez eux. Je ne crois pas que ce soit... Enfin, je pense que ce serait rogner sur une ambition plus large.
Voilà un témoignage concret.
À l'occasion d'un échange scolaire, j'arrive en Allemagne avec des enfants du même âge, 16-17 ans, cours d'histoire. Là, je me suis dit, bon, le prof d'histoire va dérouler son cours d'histoire comme on a souvent, avec les frises chronologiques, des dates et tout. Non, pas du tout. Le mec, il raconte une histoire. Le professeur en cours d'histoire raconte une histoire. On est dans le vivant, on est dans la... On imagine tout ce qui peut se passer dans la tête d'un super-héros qui peut être Christophe Colomb. On imagine que dans la tête des enfants, d'écouter l'histoire d'une personne qui a marqué son temps puisse être suffisamment marquant pour qu'il n'ait pas besoin de prendre des notes. Et bien, ces enfants-là, en Allemagne, Dieu sait que les Allemands ne sont quand même pas des abrutis. Enfin, on considère qu'ils sont quand même au niveau études et intellectuelles quand même relativement brillants. 50% de la classe des enfants ont sorti leur tricot. Ils ont commencé à tricoter. Et moi, j'ai regardé ça en me disant, mais c'est pas possible, il y a le prof à dire quelque chose. Pas du tout. Il y en avait qui tricotaient, il y en avait qui dessinaient, il y en avait qui faisaient autre chose. Il n'y en a pas un qui prenait des notes. Et c'était monnaie courante. C'est-à-dire qu'à un moment, le professeur était dans... Il raconte quelque chose. Là, en cours d'histoire, il racontait son histoire. L'enfant était... Il absorbait l'histoire, mais en même temps, il était dans le mouvement qui facilitait l'absorption de l'histoire. Et c'est ça qu'on ne comprend pas en France. C'est qu'on a besoin du mouvement pour comprendre les choses.
Et puis de manière plus générale, je me suis rendu compte aussi qu'en embrassant un arbre, on pouvait sans doute saisir mieux le sens des conflits mondiaux qui ont déchiré l'humanité ces dernières décennies. Donc je dirais qu'il s'agit d'aider chaque enfant, chaque jeune en devenir, à retrouver la lumière qui luit en lui. Et pour cela, plutôt que de s'inscrire dans une démarche de genèse basée sur de la chronologie un peu classique, chronologie un peu casse-pied, qui plus est, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte aussi en classe dans mes expériences précédentes, il s'agit... d'envisager le temps, y compris dans ses dimensions cycliques, pas forcément académique, disons, ou orthodoxe, quoi, au sens, classique du terme. En revanche, la question des origines me paraît complètement centrale, et j'essaie de développer une sorte de saine obsession de cette origine première vers lesquelles les jeunes gens se tournent évidemment au gré aussi de leur histoire familiale respective. Et je dirais que l'avantage de cette démarche tournée autour des origines, elle consiste aussi en ce qu'elle se noue, ce qu'elle s'articule assez bien avec des démarches de type pluridisciplinaire, puisque je pense par exemple à ce qui se faisait auparavant dans le secondaire, les TPE, les travaux personnels encadrés, puisque j'ai eu l'occasion vraiment de nouer des collaborations vraiment très intéressantes avec d'autres facilitateurs de ce qui relève de la démarche qu'on appelle classiquement la géologie. Donc on s'intéresse beaucoup à l'Atlantide, qui est donc la terre originelle en fait dont vient l'humanité, et aux legs des Atlantes. Donc en travaillant main dans la main sur la minéralogie et sur notre rapport au temps, on en arrive à détricoter un petit peu un certain nombre de savoir et en même temps aller découvrir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc
Et Vlad, qu'on a réussi à interviewer entre deux stages de force médichlorienne.
Je suis prof des sports qui... En fait, j'ai préféré appeler, comme on dit ici à l'école des Mimosas, que, accompagnant vers la dynamisation des corps terrestres. J'ai préféré. Je ne sais pas si je suis clair, ya que je suis un peu relativement nouveau dans le dispositif. En tout cas, j'ai préféré. Le projet des Mimosas m'a tout de suite séduit, mais tout de suite. En fait, j'ai rencontré Nathalie sur un de ses stages de pratique de rythme classique dans l'Ariège. Ça m'a tout de suite convaincu, tout de suite convaincu totalement. L'année siguiente, j'ai fait un cours avec Nathalie, à Die cette fois, en fait à Saint-Rudolphe en Diois, chez Bertrand, lui que tu lui as parlé tout à l'heure. Et c'est elle, Nathalie, qui est ma meilleure relation, qui m'a fait découvrir les projets des Mimosas. Et ouais. Pour résumer, l'idée des séquences de Dinko, des dynamisations des corps terrestres, c'est vraiment activer les courants alimentaires spirituels. C'est comme appréhender cette relation incroyable que quand tu te la conscientises entre ton corps éthérique et ton corps physique, pour faire simple, c'est quand tu la conscientises, vraiment c'est incroyable. En plus, la région ici, c'est qu'elle est merveilleuse pour la pratique de tout ce qui se traite des activités de nature. Et comme je suis très passionné des activités de nature, et je suis retourné chez moi en Espagne pour suivre une formation et obtenir une titulation en rythmie des métaespaces de l'axe Y à l'Université Autonome et Alternative des Pyrénées Aragonaises. Pues, c'est une formation incroyable que j'ai adorée. Incroyable. Pues, c'est formidable, c'est projet, c'est vraiment une chance que ça puisse ouvrir. Je te remercie.
D'un point de vue de la méthode, je dirais qu'il y a vraiment... une affirmation vraiment de la singularité de chacun, mais pas seulement de chaque jeune, mais aussi de chaque facilitateur et facilitatrice. Ce qui m'amène aussi au sein de l'école des Mimosas à me retrouver dans le refus de l'inspection. Alors c'est pas une dénonciation de chaque inspecteur et inspectrice, hein. Je me souviens de l'un d'entre eux tout à fait bon, hein, au cours de ma carrière précédente, je me souviens qu'on a échangé des recettes intéressantes, hein, de bouillon pour nos potagers respectifs, donc il y avait quelque chose d'assez chaleureux dans les conversations de couloir qu'on a pu mener après l'inspection. Non, c'est vraiment, je dirais, plutôt un refus de principe, quoi, hein, qui permet à chaque facilitateur et facilitatrice d'inventer sa méthode, de la défendre et puis de la faire évoluer, quoi, au gré de chacun et au gré de ses lectures fondamentales. Donc voilà, ça c'est pour, disons, la dimension des coulisses. Pour ce qui est de la démarche qui amènerait un parent à vouloir inscrire son enfant à l'école des Mimosas, je dirais que c'est quand même vraiment le lieu où va pouvoir fleurir en fait une conception de l'individu qui ne va pas s'embarrasser en fait de la pesanteur des dimensions collectives en fait. Et qui, tout en étant lié aux autres, hein, va retrouver dans chaque individu, chaque alter ego, disons, les éléments d'un groupe possible dans lequel il puisse vraiment se retrouver, plus qu'un renvoi à une société avec un grand S dont on sent bien que elle est un peu difficile à toucher du doigt, quoi. Voilà.
Pour rejoindre ce projet lumineux en conscience, vous pouvez envoyer un mail à lesmimosasduvercors@proton.me. Lesmimosas avec un S, duvercors@proton.me.
C'était les Mimosas Un reportage enregistré et réalisé par Cyprien Capdeville autour d'une nouvelle école qui va ouvrir à La Chapelle-en-Vercors bientôt.